Radio G 101.5 FM.
Allô, allô.
Allô, allô. Allô, 5,
allô.
5 sur 5.
Ils sont là. C'est le retour d'Helmut, alias yeah. Antepop,
ouais.
Dans Imaginaire.
Merci.
Sur le 101.5. Tout a commencé il y a 2-3 mois, je crois, pendant une spéciale Lovecraft. On avait fait une spéciale Lovecraft de 2 heures, là. On t'avait invité parce que quand même sur deux de tes albums, hein, t'avais des références,
oui, oui, c'est vrai.
À l'univers de Lovecraft. Mm-hmm. Et puis ce jour-là, t'avais ramené, par contre, un livre de Robert Howard. Ouais.
Ah oui.
Ouais. Et puis
c'est,
c'est vrai,
exact.
Ouais. Tu voulais parler un peu de leurs correspondances,
ouais, ouais, ouais.
Et tout, mmh. Ou aussi des correspondances, un peu des thèmes,
mmh. Ouais, c'est juste.
Et des choses dans leurs écrits. Mmh. Et puis je t'avais dit pop, peut-être Howard, ouais. On va en parler, ouais, une autre fois. Et donc on va en parler un peu ce soir. On va peut-être pas trop parler de Howard, mais un peu, on appelle ça l'héritage culturel, quoi. Comment des choses qui ont été écrites dans les années 30 ont infusé dans la pop culture. Et notamment, Sébastien, tu nous as ramené quelques livres dont vous êtes le héros.
Oui, et je vais vous en parler un en particulier, La légende de Zagor, le 52e défi fantastique. Alors, soi-disant qui a été écrit par Ian Livingstone.
C'est ce qui est écrit sur la couve.
Mais en fait, c'est pour faire vendre. Le vrai auteur, c'est le génial Kef Martin.
Ok. Et Antepop, toi, eh ben, c'est pas. Alors, est-ce que c'est ce soir-là que ça t'a inspiré? Après, j'ai reçu un message qui disait non, mais en fait, Howard, ça, je suis en train d'écrire des morceaux qui ont un rapport avec Robert Howard.
C'est parce que tu m'avais pas cette mission, et je me suis dit, Howard, parce que je connaissais pas trop, je connais beaucoup plus Lovecraft, et je me suis dit, il faut que je m'intéresse, et là, je me suis vraiment intéressé à Howard. Et j'ai vu que Howard, c'était pas que Conan, en fait.
Enfin, non.
J'ai pas lu beaucoup d'autres choses de Howard, mais c'est le personnage qui m'a vraiment.
Ok.
Un peu comme Lovecraft.
Et du coup, je t'avais prêté Conan du Barbare au Souverain, ouais. Un essai de Simon Sanahujas. On va en reparler tout à l'heure.
Yes.
Et puis, en fait, t'as sorti un album où il y a quand même pas,
ouais.
Mal de titres inspirés,
oui.
Par Howard.
Ouais, c'est ça. C'est comme ça. C'est que ça sort comme ça.
Ouais. Bon, on va s'écouter quelques titres et puis on va parler un petit peu de ça. On commence tout de suite avec. J'ai quand même dire aussi, on va avoir une chronique de Jean-Hugues aussi. Chronique, le dernier roman Conan, en fait, on va dire, hein, qui était sorti fin 2024, qui s'appelle La Sonde et la Taille de Laurent Mantez. C'est sorti chez Albin Michel Imaginaire. Alors, je pensais pas qu'on pouvait se dire, tiens, moi aussi, je vais écrire une histoire de Conan et tout. Je connais pas un peu toutes ces histoires de droit. Mais là, c'est un roman qui a fait parler de lui quand même. Alors, où Conan a, je crois, 80 ans, un truc comme ça.
Ah ouais.
Donc,
excellent.
Et dans Conan l'Explorateur aussi, il a un certain âge.
Ouais, c'est celui où il a plutôt la soixantaine, non? Écrit par Lynn Carter, peut-être, c'est ça, non? Ou Lyon Sprac de Caen, un peu, les continuateurs. Et puis, on va aussi parler de ce livre barbare de Conan à Musclore, quand même. On est un peu obligé d'en... qui compile, en fait, un peu tous les films de la Conan-sploitation. C'est écrit par Claude Gaillard chez Pulse. Et puis, du coup, on s'est regardé quelques Conan-like, nous. Donc, on va vous parler de tout ça dans cette émission. Bon, on commence tout de suite, Seb, avec ta chronique.
D'accord.
C'est parti.
de Zagor. Pourquoi donc? Parce qu'on peut incarner un barbare. Voilà.
Entre autres.
Entre autres. Et je vais en venir. En fait, on a quatre classes de personnages, comme dans un bon jeu de rôle, des personnages, on va dire des archétypes. Le barbare que j'ai pris, qui s'appelle Anvar le barbare, ça rime. Salazar le magicien. Braxus le guerrier. Ça me rappelle le dernier dar, l'œil de Braxus. Un petit clin d'œil.
Ah oui, quand même, d'accord, ok. Donc dar, hein, des Conan-like ouais. Au cinéma, bon, dont on parlera peut-être en fin d'émission, voilà.
Bon, c'était pour le clin d'œil.
Ah oui, autre chose aussi, j'ai oublié d'annoncer dans le sommaire, c'est qu'on a regardé Deathstalker, le film de 2025, reboot. Qui est un reboot d'un Conan-like des années 80. On parlera de ça tout à l'heure aussi. Ouais.
Donc on a Anvar, Salazar, Braxus et Rabelais le nain. Naturellement, j'ai choisi de prendre Anvar le barbare. Alors ce qui est très bien, c'est que lorsque vous allez sur la taverne des aventuriers, mes amis, le forum, un des principaux forums francophones, qui vraiment présente toute la littérature interactive. On a un topic intitulé simplement La légende de Zagor, dans lequel aussi j'ai pas mal participé ces derniers temps, et où j'ai un ami, un passionné, un amoureux vraiment de l'auteur Kef Martin, et qui propose dans les dernières pages du topic, on a un fil de discussion, des ajustements au niveau des règles du jeu, c'est-à-dire pour le rendre encore plus jouable.
Ouais, l'intérêt aussi de la taverne des aventuriers, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà un petit peu poncé tous ces livres interactifs, même qui donnent aussi des solus, des fois.
Solus qui sont retrouvables.
Ou qui disent, bon, là, il y a une erreur et tout, en fait, allez à tel paragraphe, etc.
Et ce qui est très intéressant, c'est que pour le personnage d'Anvar le Barbare, lui, il dit, voilà, il faut démarrer avec 11 d'habileté, 23 d'endurance, 10 de chance. Sachant que Anvar, là, je vais en revenir un peu plus tard, il a 1 en magie. C'est aussi un magicien, quelque part.
Ah ouais, quand même. 1 en magie, c'est bien, parce que ce qu'on va appeler la sword and sorcery, hein, donc on va dire ce style littéraire, au moins, enfin on va dire Robert Howard était peut-être le premier américain à en écrire. C'est quand même l'épée contre la sorcellerie, et souvent, on pourrait dire le héros, enfin, on pourrait dire aussi peut-être un peu un anti-héros aussi, mais bon. Le personnage principal, souvent, c'est un barbare, et son antagoniste, souvent, c'est un sorcier, quoi. Et souvent, la magie, c'est le mal, quand même, dans toutes ces histoires. Bon.
Exact.
Ouais. Alors, peut-être que Conan, je m'en rappelle pas de toutes ses aventures, il a des fois l'occasion d'utiliser de la magie.
Ah non, je ne pense pas. Non. Je pense qu'il déteste ça, il me semble. Hein.
Ouais, là, j'ai lu récemment. Non, lui, il s'occupe pas de ça. Hein.
Non, parce qu'en fait,
c'est les femmes qui sont pas pucelles pour pas s'ennuyer, et puis les épées.
Et en fait, l'idée un peu de Robert Howard, pour simplifier, c'est un peu barbarie versus civilisation, et la sorcellerie, ouais. C'est un peu une espèce de des choses les plus développées dans la civilisation, et c'est là où la civilisation devient vraiment le mal, en fait. Et les barbares, ils sont vraiment du côté de la nature, quoi.
Mais d'ailleurs, il y a Patrice Fouinet, le traducteur.
Ouais. Il avait, grand spécialiste actuel, on va dire.
J'avais lu en postface d'une BD en soi qui était pas terrible. Glénat, je crois.
Ouais, les adaptations récentes, il y en a une petite quinzaine. À chaque fois, elles sont pas un auteur, un dessinateur différent.
Bref, à la fin, il dit à une de ses postfaces, il dit, je l'ai écrit en fait. Il dit. Les mondes. Attends, où est-ce que j'ai écrit ça? Vas-y, continuez.
On pourra en discuter tout à l'heure.
Bon, je lirai ce que j'ai. Pardon.
Mais bon, c'est quand même sympa de pouvoir utiliser quelques sorts basiques pour Anvar le barbare.
Ok.
Même s'il est dit dans sa petite bio rapide.
Alors voilà ce que j'allais te demander. Chaque personnage a sa petite bio.
C'est vraiment simpliste. Hein. On est guère versé dans l'art de la magie, mais à dire vrai, vous n'en avez cure. Vous n'êtes pas du genre à passer le plus clair de votre existence la tête plongée dans les livres
non.
Et les grimoires. Pour un colosse de votre trempe, rien ne vaut une bonne bagarre pour résoudre les problèmes.
Voilà.
Mais bon, attention, faut pas que bagarrer. Alors, ouais. Ce qui est intéressant avec ce personnage, en fait, il lui donne des stats. C'est un peu un personnage un peu prédéfini. Il a également des avantages. Bon, ça, JF l'a mis en question, il l'a pas retouché. C'est-à-dire que le barbare en question, là, il peut pas être surpris par un piège. Donc il a quand même une capacité que n'ont pas les autres personnages.
Donc il prend aussi un peu la classe du voleur, hein, que tu n'as pas cité dans dans les quatre là, qui est pas dedans.
Et ça permet d'avoir des ajustements, c'est ce que je disais, jusque dans les combats aussi. Il y a eu quelques petites rectifications très légères par JF. En plus, c'est facilement imprimable.
Ok.
Et moi, ce que j'aime vraiment dans les combats qu'on a dans la légende de Zagor, souvent le système, tu le sais, Romain, des défis fantastiques, c'est un peu monotone au niveau des combats. On lance les dés. Est-ce qu'on a plus en force d'attaque? Parce que là, on touche l'adversaire ou c'est lui qui a le plus.
On refait la même chose, en fait, à chaque coup, quoi. Enfin, ouais, à chaque tour de jeu. Ouais.
Et là, ce que j'aime, c'est qu'on a quand même des combats un peu plus poussés, un peu comme si il donnait un peu un côté roleplay dedans. À un moment donné, on est face à un elfe obscur. Et il va nous lancer un sort d'éclair qui peut faire jusqu'à 7 en dégâts. Donc voilà, il a une carte dans sa manche avant après de nous attaquer avec un poignard. Et ce que j'adore, c'est que là, je suis Anvar le barbare. Moi, je suis quand même, je suis un colosse, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Je décide d'aller dans un boyau pour atteindre un certain trésor. Et soudain, il y a des diablotins qui surgissent de portes latérales. Je suis dans le boyau à quatre pattes et ils essayent de me tuer avec leur petit poignard. Alors, ce que j'ai adoré, c'est que là, l'auteur nous dit, comme vous êtes le gros barbare, vous perdez 4 points en force d'attaque. C'est-à-dire que je me retrouve en fait à peu près à la même habilité que les petits diablotins à 5.
Donc les blessures te pénalisent, hein, qui est un truc qu'on trouve dans certains jeux de rôle et pas d'autres.
Ouais. Ils peuvent davantage me toucher que si voilà, j'étais pas à 4 pattes dans le boyau. Donc on prend vraiment en considération.
C'est le malus aussi de ta
le type de personnage
situation,
qu'on est. Donc il y a plein comme ça de combats où comme on a des zombies, je ne veux pas tous les citer, et ces zombies portent des couronnes qui les rendent plus puissants.
Ouais, c'est peut-être magiques. Ce qui les maintient en vie d'ailleurs, je sais pas.
Pas forcément, non. Mais si tu arrives à éjecter c'est la couronne, tu fais une botte spéciale.
Ouais.
Mais pour ça, t'as moins 3 en force d'attaque. Ils perdent de l'habileté et de l'endurance et ils deviennent des petits zombies. Donc il y a comme ça des combats qui sont un peu plus intéressants à jouer avec de l'enjeu aussi quand même. Et là, on a l'objectif, c'est vraiment de tuer une bonne fois pour toutes Zagor, le sorcier de la montagne de feu que tu connais bien.
Ouais.
Il a déjà droit à une suite le retour de Zagor.
Le sorcier de la montagne de feu, c'est le premier défi fantastique, non?
Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, donc l'occasion, donc dans ce troisième opus de Zagor, eh bien, c'est de pouvoir en finir une bonne fois pour toutes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans un PMT, les amis, un porte-monstre trésor, mais vraiment très bien développé. Moi qui m'a accroché comme le labyrinthe de la mort différemment, parce que là il est quand même beaucoup plus poussé son porte-monstre trésor à Kef Martin, on a de la fouille, mais il y a aussi le plaisir de la fouille dans la fouille, c'est-à-dire que on a des coffres tourelles dans lesquels il y a soit des dagues d'argent, des talismans d'or, et qui vont nous permettre, en les collectant, d'avoir un peu plus de chance lors de la bataille finale contre Zagor. Et ça c'est vraiment intéressant de se dire, mais où sont ces fameux coffres tourelles? Et de se dire, j'aurai comme ça des armes en plus contre Zagor.
Est-ce qu'il y aurait pas un petit côté HeroQuest, là, dans ce livre?
C'est fort probable, parce que,
ça date de quelle année?
De 93.
Ouais, donc,
je pense
c'est
HeroQuest, c'est fin des années 80.
Ouais, j'aurais dit 87, 88, peut-être, ouais.
D'ailleurs, on a une adaptation aussi en jeu de plateau. Enfin, je sais pas vraiment qui a inspiré, l'autre.
Ah oui! Ce livre-là a été adapté en jeu de plateau, c'est vrai.
Voilà, la légende de Zagor, qui malheureusement, à la contraire du livre, lui on l'a à 8,90€ en V4 aujourd'hui.
D'accord, ok. Donc
Revu en plus par Scriptarium aussi qui a apporté
des corrections peut-être.
Des corrections.
Ouais, s'il y avait besoin.
JF a apporté aussi en plus. Bon, ça c'est pour le fan qu'il est. Mais le jeu Zagor, c'est à 150,
93, 150 donc il cote un peu, peut-être ça vaut pas l'investissement.
Et on a aussi un peu le plaisir d'avoir des sorts, 12 au total. Avec JF, on peut, avec le barbare, en utiliser 7.
Ah oui, quand même.
Et ce qui est intéressant par rapport à ces sorts, par exemple, on a le sort de main vive. On peut avoir aussi des anneaux magiques, même si je n'ai qu'un point de magie. Donc le main vive, par exemple, permet de relancer pour soi les dés une deuxième fois et de retenir le meilleur résultat durant les 5 premiers assauts. Et lorsqu'on combat des adversaires avec une habileté proche, ça peut être intéressant de se donner comme ça une chance supplémentaire.
Tout à fait, de faire basculer le combat. Ouais.
Donc c'est de la magie simplifiée, mais très utile. Et il y a encore du plaisir dans ce porte-monstre trésor, les amis. On a des passages secrets. On a aussi à tester notre habileté là de localisation. Et des pièces très protégées. À un moment donné, il y a une surprise, il y a une porte avec une rune, une porte magique. Moi, je décide de l'enfoncer en bon barbare que je suis.
Ah oui.
J'ai réussi à ne pas faire activer le piège. Mais bon, des fois, si...
En plus, il n'y a pas de voleur dans l'équipe, donc...
En plus, moi, je suis vigilant, donc je vais faire attention. Mais des fois, là, je rentre dans la pièce et il y a une nouvelle porte magique, mais avec trois symboles. Mmh. Donc là, je me suis dit, bon, je vais utiliser comme des sorts d'ouverture, parce que je crains un petit peu là de tomber sur un piège qui va pas me surprendre, puisque je sais que c'est une porte piégée.
Ah oui, en fait, dans ce livre-jeu, on choisit dès le départ d'incarner un des quatre personnages qui peut rentrer dans le donjon. On traîne pas toute l'équipe avec nous.
Non, du tout. Mais figure-toi, Romain, donc dans ces passages secrets, dans ces pièces qui sont ultra protégées, il y a des trésors, des informations même capitales qui peuvent t'aider à savoir que dans telle salle, il y a tel monstre, que tel personnage, il faut s'en méfier. Mais on peut faire équipe avec un voleur à un moment donné. Bah voilà, le voleur dont tu parlais,
personnage
il va nous accompagner.
Les...
Il peut nous accompagner en échange d'or, comme par hasard, 4 pièces d'or et tu viens avec moi. Mais il va être utile, par exemple, pour les combats, pendant les 3 premiers combats qu'on va mener. Il vient nous apporter sa force d'attaque. Il peut aussi crocheter des serrures.
Ah, tout à fait.
Mais tant que c'est pas des portes magiques. Donc ça, j'ai bien aimé. On sent vraiment le côté un peu jeu de rôle. On a vraiment le plaisir d'avoir aussi des bonus appréciables en plus de ceux qu'on va trouver dans les coffres tourelles. Donc il y a vraiment un plaisir d'exploration qui est poussé vraiment au maximum. Et en plus, chaque personnage peut avoir des paragraphes qui lui sont propres. C'est-à-dire que Salazar, par exemple, il voit un portail de téléportation, il va pouvoir rentrer dedans et aller dans d'autres pièces du château. Ce que le barbare, lui, en tant que simple jeteur de sorts, ne peut pas faire. Donc il y a des histoires comme ça pour ces personnages qui se développent un petit peu, c'est léger, mais au cours même de l'aventure.
Ah, ça c'est sympa.
Et donc on peut rejouer effectivement le donjon avec un nouveau personnage, sachant que JF a permis justement à Salazar le magicien d'avoir beaucoup plus de chances de l'emporter que dans la version initiale de Kef Martin où il est un peu désavantagé vraiment par rapport aux autres personnages. Et pour finir, on a une carte à faire qui est très simple. Moi, je me suis amusé d'ailleurs à la faire. Bon, je peux pas la montrer à l'écran, c'est vraiment un peu brouillon.
Donc le donjon est cohérent quand même.
Il est cohérent. Et rien que la partie basse.
Ce n'était pas toujours le cas dans les lions, vous êtes le héros.
Parce que moi, j'ai quand même perdu. Dans la partie basse, avant de reprendre, il y a énormément de choses à faire. Et on a même le plaisir de pouvoir retourner sur ses pas à un moment donné. Donc d'avoir un peu ce sentiment de liberté que Kef Martin a développé que plus encore que, par exemple, dans son tout premier, Le Vampire du Château Noir. Et moi, ce que j'aime avec cet auteur, c'est qu'il s'amuse aussi à faire référence à d'anciennes œuvres qu'il a écrites. Alors, d'où le fait que j'ai ramené Le Voleur d'âmes. Au tout début, avant d'arriver au Château d'Argent, où se déroule donc l'action, où est embusqué Zagor, eh bien, il va falloir traverser des océans. Et on a l'occasion de se battre contre une vivre des brumes, un oiseau volant, comme dans Le Voleur d'âmes.
Une
vivre, une sorte de dragon.
Femme, ça d'accord, ah oui.
Et dans Le Voleur d'âmes... Dans Le Voleur d'âme également, on a un oiseau, c'est un oiseau cyclone contre lequel on va se friter au tout début. Et comme dans Le Dragon de la Nuit, on commence dans un port. Là, c'est le port du Sable Noir dans Le Dragon de la Nuit. Là, c'est Carpierre dans La Légende de Zagor. Et si on traîne un peu trop, on a des voleurs qui surgissent et qui peuvent nous voler tout ou en partie de l'or.
Ouais, c'est démon.
Alors l'auteur, il aime bien comme ça faire des références à des situations de jeu qu'il a développées dans ses anciens DF. Alors, est-ce que c'est par manque de temps, parce que par moment il devait en écrire, il devait écrire très vite, ou c'est pour le plaisir de faire des références, ça reste à creuser. Ouais. Mais vous verrez qu'il y a vraiment, il aime comme ça faire des références multiples, et c'est marrant de pouvoir après se dire j'ai vu ça dans tel livre, mais il va aussi le développer un petit peu différemment. Bon, ça c'est un petit peu sa signature. Donc moi je vous conseille La Légende de Zagor, qui est très 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 long. Vous aurez du plaisir à le faire.
Il a l'air assez fin quand même, quand on le voit.
Il est fin, mais vraiment un contenu impeccable. C'est un 400 paragraphes dans lequel on a envie de retourner et de re-retourner, un peu comme dans Le Labyrinthe de la Mort, Romain, qui t'avait marqué comme moi-même à l'époque.
C'est le premier que j'ai acheté.
Non, je ne connais pas.
C'est le truc.
Non, celui-là, non. Ça me rappelle ma jeunesse.
Ah oui.
Je n'ai pas gardé. J'en ai trouvé un Emmaüs l'autre jour, mais je t'en avais parlé.
Ouais. Mais alors celui-ci, tu peux l'avoir en neuf à 8,90€ et pas à des prix d'occasion.
Ouais, parce que les premières versions sont rares.
Ouais. Et voilà.
Ok, très bien, merci Sébastien. Est-ce que tu as retrouvé ta citation?
Ah oui,
Helmut.
Oui, oui.
Oui, oui. Alors en fait, c'était Conan, show radio, Radio G.
C'est nous.
Alors voilà. Alors pour Howard et les aventures du Cimérien, donc Conan, les barbares survivent parce qu'ils ont un monde qui leur appartient, bien à eux, loin de l'aliénation, tandis que les moutons sont abattus. Voilà ce qu'il dit en gros, Louinet. J'avais trouvé ça génial, en fait. En gros, il dit, t'as ton monde, bah, tu fais ta vie, alors que, et il tue tous ceux qui sont, dans Conan, les barbares, généralement, ils survivent, et les potes, Conan, il va tuer un mec, et après, il va dire, ah ouais, pourtant, ça aurait été un bon pote, c'est dommage, mais je l'ai buté, mais j'ai du respect pour lui. Mais c'était un barbare. Le gars, il avait un truc, quoi, tu vois. C'est ça qui défend. Je trouve ça vachement chouette que Louinet l'ait remarqué et je trouve ça vachement juste aussi.
Alors peut-être aussi que cette personne en face était plus civilisée et qu'elle avait un peu perdu, par exemple, des notions de survie aussi.
Peut-être, mais c'est ça qui. Bah, si tu me permets de lire tout ce que j'ai pu noter, ouais, c'est ce que. C'est
ça bon, on va s'écouter un extrait de ton album, Les Cimériens de l'au-delà. Yes. Un extrait de ton nouvel album qui est sorti sur Camembert Électrique aussi.
Ouais.
Alors c'est qui en T-pop?
En T-pop, c'était à Nantes quand je commençais à faire des performances.
Ouais.
En tant que DJ, j'avais.
Ah bon?
J'étais DJ et je voulais faire un. Parce que j'étais passionné par William Burroughs.
Ok.
Mais toujours, à cette époque encore bien plus. Et j'avais essayé de trouver un truc en cut-up, en illustré avec des morceaux de musique. Donc je faisais des gros mélanges. J'avais même fait une première partie de Pinas, de Eldon.
Richard Pinas, ouais.
À Nantes.
Ouais.
Bah, en 2020, 2019.
Excellent.
Et donc là-dedans, je brouillais plein de sons. Enfin, c'était vraiment ce que je ressentais en lisant Burroughs, quoi. Et puis donc voilà, Antépop est né là, et c'était bien Antépop avant la pop.
Ouais.
C'est le bordel, quoi. Et c'était voilà.
C'est la barbarie avant la civilisation.
C'est ça. On peut prendre ça.
Mais du coup, alors cet album là, j'attends No Expectations. T'as quand même trois titres là sur sept qui font référence à Robert Ward.
Ouais.
Comment ça t'a inspiré ça?
Dans
l'Antépop.
Bah c'était. En passant par Lovecraft aussi, enfin je sais pas trop, c'est vraiment Lovecraft et Howard ont évoqué quelque chose. Et en moi, ils ont vraiment, tu vois, parce que Howard, Conan, c'est pas Schwarzenegger quoi. Moi, je pensais que c'était un pauvre type qui avait son épée, qui avait des gros muscles, et puis voilà. En fait, pas du tout. Howard, c'est absolument pas ça du tout. Je leur dis encore une fois.
C'est ce que dit Louinet aussi d'ailleurs.
Et donc c'est là que c'est sauveur et c'est ça peut inspirer.
Moi, j'aime bien Schwarzenegger aussi, mais.
Oui.
J'aime bien la vision de Robert Milius aussi, mais bon.
Ah, ça, je suis pas assez pointu.
Mais on entend d'ailleurs, là, dans le morceau qu'on vient d'écouter, au début, on entend que c'est le début du film.
Oui, oui, c'est ça.
J'ai jamais trouvé Conan la BO. Conan le barbare de.
Exact. Ouais. Moi, je suis beaucoup CD et vinyle.
Ouais.
Ouais, j'écoute que ça, mais. Je dis ça parce qu'une fois, t'avais dit, oh, il y en a qui écoutent encore des disques, comment ça se fait? Alors, j'avais pas répondu.
Ok.
Après, je sais pas. Ça va pas plus loin que ça, mais. Et on va.
Bon, après, tu produis du MP3, quoi. Ta musique est digitale.
Ah oui, c'est du MP3, ouais. Ouais. Ouais, c'est un net label, hein. C'est pas non plus.
Ah ouais.
Ouais, c'est.
Et alors, mais alors donc, en gros, t'as lu Howard là, et puis paf, après tu t'es mis, t'as branché ta guitare et ton ampli. D'ailleurs, il y a des morceaux qu'on va écouter là qui sont bien saturés. Ouais. Et puis paf, c'est venu tout seul, quoi.
Ouais, bah non, mais j'en fais pas tous les jours, mais aussi quasiment de la guitare. Donc,
et puis, après, faut être inspiré aussi.
Mais j'écoute beaucoup de musique. Je sais pas comment dire. Mais après, ça reste. J'ai fait plein d'albums, mais tu les écoutes. Moi, c'est toujours des parties, des séquences de l'existence, quoi. C'est par rapport à des inspirations. Tu vois, là, si tu me permets de dire.
Allez, vas-y.
Si, tout ce que j'écris, je parle de Frank Herbert, Gilles Deleuze, Philippe Kadic, William Burroughs. Tous ces mecs-là, c'est des auteurs différents.
Complètement.
Mais en même temps, qui touchent une chose qui, moi, me touche beaucoup, c'est le contrôle de la société sur le conditionnement, le contrôle, la consommation, principalement.
Peut-être à cette lecture-là, encore dans des textes, parce que Robert Howard, c'est des textes qui ont été écrits entre 1920 et quelques et 1936, où il est décédé.
Je retrouve vachement ça. Il fait vraiment une critique par rapport à la. Enfin, moi, je trouve une critique par rapport à la société qui est. C'est pas en regardant Conan avec Schwarzy que tu vas comprendre ça, quoi. C'est ça que je dis.
Ouais, non, le Conan de John Milius. Je sais pas trop comment décrire ce film.
Vengeance. Hein.
Ouais, c'est ça. On a un peu les classiques de. Alors, si on veut aller chercher des choses politiques, un truc qui m'a fait marrer, parce que je l'ai revu pour cette émission, c'est que, en gros, quasiment toute la partie du film, c'est son opposition au culte du serpent, là, enfin la secte de Seth, avec Tulsa Doom, le gourou là, qui est à leur tête, et notamment parce qu'il a été quand même traumatisé au début du film, il voit sa mère se faire décapiter, il lui tient la main devant lui, quoi.
Ouais.
Donc ça, bon, peut-être après, faut pas trop chercher non plus. Et en fait, à un moment, il va infiltré en fait cette secte. D'ailleurs, le film est assez spectaculaire. Il y a quand même 1500 figurants en toge devant un temple qui a été construit à Almeria, là, dans les montagnes du sud de l'Espagne, qui servait à faire des westerns. Et c'est vraiment des hippies, quoi. tous ces adorateurs de Tulsa Doom sont complètement hypnotisés. Au début du film, on voit une fille. Il n'y a pas de dialogue. Un des prêtres, on peut dire, la regarde et elle se jette en fait dans la fosse du serpent. Et je me disais, tiens, est-ce que John Milius, est-ce qu'il y a une espèce de critique un peu du mouvement hippie en fait qu'avait rendu là en 1981
sur la figure du père, parce que Tulsa Doom se dit un peu le père un peu de Conan.
En tout cas, c'est lui qui est à l'origine de cette vengeance.
Ah ouais, il l'a un peu forgé, ce qu'il
il
l'a envoyé dans des arènes et tout, il se durcit, on le voit à un moment donné. Quand il
Oui. D'ailleurs, un truc qui est rigolo, je sais plus, alors c'est dans le bouquin, en fait, sur les Conan-like, là, de Claude Gaillard, il y a aussi une interview de Patrice Luynet là-dedans. Et la première question que Claude Gaillard lui pose, c'est quelle différence tu vois entre Conan, le personnage dans les écrits de Howard, et Conan dans le film de John Milius avec Schwarzenegger. Et il dit Conan, le Conan de Robert Howard ne serait jamais resté attaché à une roue pendant 20 ans à juste pousser une roue. Quoi.
C'est vrai.
Oui.
Je m'en rappelle de la scène où on le
voit. Mais cette scène est très sympa aussi, voilà, c'est ça, tu vois le personnage. Bon, c'est là qu'il fait ses muscles, en gros, quoi.
Mais justement, c'est ça, c'est que Conan, il est un joli.
Ouais,
allez,
vas-y.
Allez, 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 la fin, ouais. la fin. Ouais. Alors, le problème est que toutes ces... Bah non, attends.
Ça va pas être facile. Le milieu alors, aussi.
Alors, avec l'arme de la quantité consumériste, les hyperboréens, donc les méchants, morts-vivants de la société, donc là, je parle des deux, aujourd'hui aussi, du réalisme, déposeront, bien que de puissance et raison inférieure, toujours Conan dans une brèche qui ne s'en sortira que pour en affronter de nouvelles. Bon, ça, on est tous d'accord. Et c'est cette logique qui maintient notre humanité dans un même cycle, le cycle, ce que j'appelle primaire. Et après, je l'ai noté juste avant de venir, Conan est incapable de faire autrement. En fait, il est obligé de sauver le monde à chaque fois.
Il ne sauve pas le monde, Conan, il sauve sa peau.
Oui.
Oui, mais oui, oui. Et c'est vrai, t'as raison. Bon, que de sauver sa peau alors.
Ouais.
Et j'ai après, bon, histoire de donner des leçons, même si.
Il sauve sa peau, il venge. Alors là, dans John Milius, il venge par amour, hein, parce que ça.
Oui, bah.
Il tombe amoureux.
Oui, aussi.
On dirait bien.
Oui, bon, tout, comme dirait Patrice, spoiler le film, mais ça me rappelle comme ça des scènes marquantes. Les personnages, ils sont quand même très, très forts.
Et dans le deuxième, Conan le Destructeur, il agit parce qu'il pense en fait que les gens qui le manipulent peuvent faire revenir sa bien-aimée. Donc il agit quand même un peu par amour.
Ça, je m'en rappelle, ouais, c'est vrai.
Bon, alors aussi, Conan, c'est quand même donc le barbare, c'est le libertaire. Alors je sais pas s'il en a vraiment conscience, mais son truc, voilà, c'est la liberté en fait.
Bah, y a même un titre... qui rassemble non un titre de romance qui s'appelle Conan le libérateur.
OK. Parce qu'en fait, si on met dans une société, il devient entravé par les règles de la société.
Mais civilisation. Mais le civilisé pour Howard n'est pas réellement le civilisé mais de notre société quoi. Donc pour n'a pas de monde particulier à lui quoi, tu vois. Il appartient, il est conditionné, il appartient au mouton, au troupeau. Mais le berger, ça va être celui qui a le monde, si tu veux. Enfin, là, on va dans des discussions bibliques, peut-être, mais en gros, c'est ça qui est dit. Enfin, je pense que c'est ça qui est dit.
Bon, on s'écoute un autre extrait de ton album, mais alors, il y a petite chose, on a rajouté un poème dessus.
Mmh. Très bien.
J'ai demandé à une copine de nous enregistrer le poème Cimérie, donc qui a été écrit en fait au moment où Robert Howard pense au personnage de Conan, en fait. Il a écrit The Sword and Sorcery d'abord avec Cull. Il y a eu que deux textes de publiés, je crois, de son vivant, mais notamment grâce à des gens comme Patrice Lunet. Maintenant, on peut retrouver une quinzaine. Et puis Cull est abandonné en 1929, je crois. Et en fait, la dernière nouvelle de Cull, servira. Ce sera la première, en fait, que nouvelle de Conan, qui s'appellera le Phénix sur l'épée. Et donc à ce moment-là, c'est lors d'un voyage, je crois. Alors du coup, on va pouvoir aussi parler du livre de Simon Sanajuès, parce que lui, dans ce livre, en fait, il refond un voyage sur les traces d'Howard en voyage, au sud du Texas notamment. Et puis, il pense aussi, en fait, en se promenant dans son état, là, il pense à ce qu'est la Cimérie. Donc, il écrit un poème aussi au même moment. Et donc, on va s'écouter ça tout de suite sur le 101.5.
Cimérie. Je me souviens. Les forêts ténébreuses masquant les pentes des sombres collines. L'éternelle voûte de plomb des nuages gris. Les eaux opaques des rivières s'écoulant sans bruit, et les vents solitaires qui mugissaient le long des défilés. En une morne perspective, colline après colline, pente après pente, noircie d'arbres maussades, s'étendait notre contrée lugubre. Et quand un homme gravissait, un pic déchiqueté, et plongeait son regard, son œil assombri, ne rencontrait que cette perspective à perte de vue. Colline après colline, pente après pente, et toutes masquées comme leurs sœurs. C'était une terre sinistre qui semblait retenir tous les vents et les nuages et les songes qui fuient le soleil. Les branches nues frissonnaient dans un vent solitaire, et les forêts épaisses noyaient toutes de leur obscurité, que ne savait percer un rare soleil maussade, réduisant les hommes à des ombres spectrales Il l'appelait Cimérie, terre de ténèbres et de profonde nuit. C'était en des temps et des lieux si reculés, j'ai oublié jusqu'au nom que je portais. La hache et la lance à pointe de silex sont comme un songe. Les chasses et les guerres des chimères. Je me rappelle seulement du silence de cette sombre contrée. Les nuages empilés à jamais sur les collines, l'obscurité des forêts éternelles. Cimérie, terre de ténèbres et de nuit. Ô mon âme, née de collines enténébrées, dans les nuages et les vents, et les spectres qui fuient le soleil. Combien de morts faudra-t-il pour briser enfin cet héritage qui me ceint de l'équipage gris des fantômes? Je fouille mon cœur et y trouve Cimérie, terre de ténèbres et de nuit.
Le texte posé sur la musique, ouais. Et la musique me rappelle My Bloody Valentine.
Je sais pas si une influence pour anti-pop.
Morceau.
En ouais, tout cas, il y a des guitares qui font beaucoup de bruit chez My Bloody Valentine.
J'ai fait la guitare et Pias, le mec qui est en verre électrique, il l'a arrangé.
Ah, c'est lui qui a fait le remix.
Ouais, c'est lui qui a refait un truc derrière.
C'est quoi ce son qui tourne?
Ah, j'en sais rien. Il l'a fait plusieurs fois pour des morceaux. Mais là, c'était pour appartenir à une espèce de compil.
Ouais, c'est cool. Oui. Il y a une grosse compil sur
Camembert
électrique. Ouais. Oui, ouais, leur compil d'hiver. Il y a énormément de titres. Ah oui, d'accord, t'es dessus aussi.
Ouais.
Et il y a un côté blues là dans tes accords. Ouais, est-ce que t'as voulu retrouver un peu ce côté. Rural américain, je dirais, dans la musique.
J'ai beaucoup de blues. Ouais. Je fais beaucoup ça tout seul.
Ok.
Ouais.
Du blues psychédélique quand même.
Ouais, celui-là, ouais.
Et donc la Cimérie, alors c'est où? Parce qu'en fait. Conan le Cimérien, je crois que c'est le seul Cimérien qu'on croise dans tous les textes de Robert Ward. Et en plus, il n'y a rien qui se passe en Cimérie. Sauf finalement le roman dont Jean-Luc nous parlera tout à l'heure, dernier Conan.
Il revient quand même dans son village, dans une nouvelle.
Ah bon? Ah, attention, parce
Conan
que.
Le Cimérien, je pense.
Ouais, mais alors Conan le Cimérien, ça n'a peut-être pas été écrit par Robert Ward.
Ouais, c'est ça.
Parce que d'abord, il y a ses textes des années 30, et puis après.
Il y a The Savage Sword of Conan.
Voilà, il y a les bandes dessinées, et puis il y a. Lyon Sprague de Caen et Lynn Carter récupèrent les droits, et eux terminent des nouvelles, en rajoutent des autres, ils remettent tout dans l'ordre. Parce qu'en fait, Robert Ward, il n'a pas écrit ça dans l'ordre. Il disait. Si je demandais à un mec de me raconter sa vie comme ça, il me dirait des choses à telle époque. Et voilà, j'étais pirate à telle époque, j'étais voleur à telle époque, j'étais roi, etc.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc la Cimérie.
Eh ben, c'est en Sibérie, d'après ce que j'ai vu. Parce que je trouve un bouquin, Le Code Secret de l'Odyssée. Et là, je vois, il parle de Cimérie. Le truc, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Cimérie, tu vois, c'est là. Scylla. Attends, c'est où Cimérie?
C'était un continent mythique comme Atlantide, non?
Non, je crois pas.
Comme Kull, peut-être, chez Ward aussi, venait de l'Atlantide et a été englouti entre l'époque des nouvelles de Kull, c'est l'âge turien, je crois, et l'époque des nouvelles de Conan, où c'est l'âge iborien. Mais finalement, quand tu lis, il y a des dizaines de milliers d'années entre les deux, mais au niveau technologique, on va dire, il n'y a pas grand-chose qui a évolué.
Tu vois, en fait, il parle d'après les anciennes légendes écossaises, ce détroit est hanté par une sorcière appelée Kayach, que provoque le naufrage des navires. C'est en fait, là, il raconte le coserait de l'Odyssée de Homère.
Ouais.
Et... il parle de faire la liaison. Enfin, je lis un moment Cimérie là-dedans, la Cimérie. Donc c'est en Sibérie. Et je reprends le texte d'Homère et là je trouve encore même chose. Il parle de la Cimérie. Homère.
Mmh. Alors Robert Ward était très influencé par les mythes et l'histoire européenne. Hein.
Ouais, carrément.
D'ailleurs, quand on regarde, je sais plus dans quel. Ah oui, c'est dans le. C'est dans les Conan de Louiné là qui sont sortis chez Brajlon en trois tomes. Il y a des cartes et en fait on voit que pour faire la carte de ces différents royaumes à l'époque de, on va dire pendant l'âge hyborien, Robert Ward commence par décalquer une carte de l'Europe. On voit la France et tout, et puis au fur et à mesure, paf, il efface un peu en fait la carte de l'Europe et puis il met ses propres nations à la place. Nations qui ont des, il y a quoi, une dizaine de nations un peu dans son monde, peut-être un peu plus, qui ont des niveaux technologiques, on va dire, très très différents. Après, bon, la civilisation la plus évoluée chez lui, on va dire, c'est un genre de renaissance, quoi, peut-être. Ouais.
Ça y est, j'ai trouvé. Là se trouve la ville et le pays des Cimériens. Avec un petit 1, alors j'aurais un petit 1. Et là, les Cimériens, il est peu probable qu'il y ait là une allusion aux Cimériens historiques, ces féroces dévastateurs dont parle Hérodote. Peut-être s'agit-il plutôt des Chimériens, c'est-à-dire de gens de l'hiver. Excellent. Okay. Je revenais pas, quoi. Tiens, Cimérien, ça existe vraiment.
Et donc, je t'avais dit, tiens, jette un œil à cet essai de Simon Sanahujas. Alors Simon, on l'avait accueilli à un salon imaginaire. C'était un gros fan de Robert Ward à une époque. Il a écrit une trilogie avec un personnage qui s'appelle Karn, qui est tour à tour pirate, un peu voleur aventurier et tout. Donc c'est très très inspiré par Conan. Ouais, c'était. Et d'ailleurs la dernière nouvelle qu'il a écrite de Karn est dans une anthologie imaginaire qui s'appelle Monstres cachés. Je fais un petit peu de pub en passant. Et il avait un truc aussi, Simon, c'est que donc à l'époque où il était chez les Moutons Électriques, il faisait des voyages en fait avec un copain photographe et il partait un peu sur les traces de certains grands mythes littéraires. Donc ils ont été à la poursuite de Tarzan en Afrique, ils ont été à la poursuite de Dracula en Angleterre.
Ah oui, tu me l'avais dit ça.
Et là, ils partent alors en fait, c'était sorti en one shot et puis donc depuis ça a été réédité en fait dans cet essai où il y a aussi des petits essais sur différents chapitres sur des thèmes en fait dont qu'on peut trouver dans la littérature de Conan. Et donc Road Trip, assez rigolo, non? Je sais pas, tu l'as lu?
J'ai pas tout lu.
Ah, tu l'as pas lu?
Je m'en suis servi, ça m'a inspiré.
C'est assez marrant, mais bon, les gars sont vraiment très très fans et en fait ils essayent de trouver un peu des références qu'on peut retrouver ensuite chez Howard. Et en fait la question un peu c'est est-ce que la Cimérie finalement c'était juste autour de chez lui, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais,
il est jamais parti très très loin non plus. Puis dans les descriptions, est-ce que en fait le Texas, ça peut coller un peu à des descriptions d'endroits qui sont dans les textes de Conan. Alors Conan, quand même, on voyage beaucoup. Hein. On voyage sur les océans, donc dans des civilisations plus ou moins développé. Et puis dans les films, le Conan le Barbare de Milius, c'est surtout filmé en Espagne, hein, donc quasiment dans Almeria, dans des décors de western. Même si un truc que j'ai trouvé marrant, moi, dans le Conan, c'est que ça fait pas trop film d'heroic fantasy par rapport à d'autres trucs. Enfin, je trouve on n'a pas un peu l'aspect moyenâgeux européen qu'on voit dans pas mal de trucs de fantasy. Il y a beaucoup de personnages qui ressemblent à des Mongols. J'ai l'impression qu'on est plus du côté des steppes, de l'approche Asie. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, son copain Subotai, là, le voleur aussi, a une espèce de toque en fourrure. Et puis le magicien qu'il rencontre, qu'on retrouve d'ailleurs dans le deuxième, qui c'est plutôt un chaman avec une grande robe avec plein de bordel dedans. Bref, il y a un côté, je sais pas si... je crois que c'est Ron Cobb qui s'était occupé en fait de la direction artistique de ce film. Et j'ai trouvé quand même que leur monde d'heroic fantasy était assez original. Voilà.
Ouais. Mais parce que justement, je t'écoute parler de ça. Mais là, Howard,
alors c'est bien, t'as amené la nouveauté.
Ouais.
C'est tout juste sorti au mois de janvier, ça.
Ça, c'est génial. Et c'est la même édition Brajlon que Atlas Lovecraft que j'avais ramené.
Ouais, Brajlon, donc ils ont fait, sous la direction de Patrice Louinet, ont fait 12 tomes, en fait, de Robert Howard. Donc, dans 3, où on retrouve l'intégrale de Conan. Et donc, là, il y a ce best-of en poche qui vient de sortir.
Il va en sortir 3, apparemment. Il y a plein de trucs à noter. Et c'est ce qu'il y a...
On retrouve quelques nouvelles de Conan, hein, au moins 2 ou 3 là-dedans.
Et Pickle aussi.
Ouais, ok. Et puis un texte inédit aussi, un western horrifique, les vautours de Wafton. Voilà. Mais ils disent... Pour ceux qui ont déjà l'intégrale Conan chez Bragelonne, voilà, il y a un texte inédit.
Ils disent dans l'intro que c'est un truc typique américain de l'époque.
Ouais.
Une espèce de polar, quoi.
Alors en fait, Robert Ward était vraiment fasciné par l'histoire européenne. Il y a beaucoup de nouvelles, si on sort de Solomon Kane, et puis Cull, et puis Conan. Il y a pas mal de nouvelles sur les croisades. Il y a aussi Sonia Larousse.
Oui,
je pense qu'on en parlera dans la prochaine.
Il y a un truc sur les Templiers.
C'est long. Ouais, voilà.
De là-dedans.
Ouais. Et en fait, je pense que lui, finalement, il voulait surtout faire du roman historique. Et puis, en fait, c'est pas ce qui marchait le plus.
Ouais,
voilà.
C'est ça. Allez vivre.
Donc, à un moment de sa vie, c'est vraiment concentré sur Conan parce que
c'est ce qui lui ramenait de l'argent.
C'est ce qui lui payait son loyer. Même il. Louis-Né dit aussi qu'à un moment, il a même. Il fallait vraiment qu'il casse des textes. Et puis, en fait, l'éditeur de Weird Tales, là où il en mettait pas mal, enfin, au moins des nouvelles d'horreur, de fantasy, tout ça. A vu arriver aussi une mode de pulp à l'époque qui était un peu érotique et tout, et donc pour survivre l'éditeur a été obligé de se mettre un peu à des trucs un peu plus légers, et donc Robert Ward a été obligé d'écrire des textes un peu
avec des filles.
Il fallait qu'il y ait des femmes nues au moins une fois dans l'histoire, il savait que la nouvelle, quand l'auditeur allait dire ah bah tiens ça je vais le mettre en couverture, donc il y avait une femme nue qui vendait en fait le pulp dans les années 30, et lui il était sûr que ça allait marcher.
Ouais. Et je l'ai peut-être dit là avec Lovecraft, mais Howard est vraiment le rêve américain, quoi. Donc tout dans ses nouvelles, à chaque fois Conan, comme je viens de le dire, c'est le sauveur, quoi.
Conan est vraiment un personnage américain.
Alors que Lovecraft, non, pas ses trucs à lui. Lui, il fait peur, quoi.
Ouais.
Qui aujourd'hui, pourtant Lovecraft est aujourd'hui bien plus connu, aimé, je dirais même, que Howard. Alors que
Années
30, c'était un peu le contraire, quoi.
Parce qu'en fait, Conan, c'est la liberté.
Ouais.
Et puis c'est la conquête aussi.
Ouais.
Il y a un peu cet esprit de
ça,
pionnier
c'est...
en fait.
Ouais, mais c'est ça qui est c'est excellent aussi, quoi. C'est ouais, moi j'adore. Ah, j'adore.
Et qu'est-ce que je voulais dire? On va passer à la chronique de Jean-Hugues. Donc Laurent Montez fin 2024 il sort chez Albin Michel Imaginaire La Sonde et la Taille. C'est Conan. En fin de carrière, quoi. Rester roi, mais on s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire.
Chers auditeurs, chers confrères, mon amour, bonjour. Alors, je vais vous chroniquer un roman de Laurent Montez dont le nom est La Sonde et la Taille. En préambule à cette chronique, je voulais dire qu'après l'avoir écrite, je suis allé zioter celle d'éminents confrères, dont certains que j'ai interpellés ensuite, et j'ai même échangé avec l'auteur qui s'est avéré aussi surpris que moi de la majorité des retours en mode « Il a poussé le Laurent, c'est vraiment dégueulasse par moment ». J'évoque dans la chronique à venir le côté gore de certains passages, et il est vrai que la description d'un kyste purulent horriblement douloureux dans les roustons puisse choquer tout mâle normalement constitué, mais quand même. Parmi les dernières séries que j'ai pu voir en streaming sur des sites bien pensants, il existe quelques scènes de torture et autres meurtres de masse bien réalistes et autrement choquants. Oui, mais il est vrai, on touche à Conan. Ma chronique. Il s'avère que je suis un immense fan de R.E. Howard, dont je possède l'intégrale de tout ce qu'a publié Bragelonne en omnibus, et bien d'autres choses encore. Que Conan est un héros de fantaisie que j'apprécie au plus haut point, et que j'ai tout lu ce qu'il y avait en lire, y compris les pastiches de Lynn Carter à Terry Pratchett, que j'en ai lu énormément de comics, de Barry Smith à Buscema, et même vu des adaptations cinématographiques plus ou moins réussies. La présentation qu'on m'a faite de La Sonde et la Taille ainsi que le quatrième de couverture ne m'ont pas incité à vouloir me plonger dans le roman. Je jette un œil sur la couverture et note la superbe illustration de Didier Graffet, que j'adore, et qui, je m'en rendrai compte quelques jours plus tard, n'a strictement rien à voir avec le roman. Puis, me demandant qui avait osé s'attaquer à ce monument de la littérature de fantasy, je lis Laurent Montez. Le Laurent Montez de Malpertuis ? Eh oui. Il faut savoir compter sur les deux compères de génie que sont Christophe Thiel et Thomas Bauduret pour nous trouver des auteurs sortis d'on ne sait où ayant d'immenses qualités d'originalité et d'écriture. J'avais lu des nouvelles de ce Montez qui m'avait frappé par sa maîtrise de l'écriture et du déroulé scénaristique. Bon, du coup, j'ouvrais le machin. Soyons clairs. Le résumé du scénario peut sembler court, mais tout comme le batteur de Kotsigan de l'immense Fabien Cerruti, il n'a pas besoin de plus quand on a l'art et la manière. Bon, je vous le pitch. Conan a dépassé les 80 balais, il a un kyste infecté à un endroit mal placé, en mode « qui est vécu par l'épée ?». Il est roi d'Aquilonie depuis 40 ans, et tout a l'air de bien se passer dans les 7 royaumes qu'il contrôle d'une main d'acier dans un gant de satin. Il a avec lui son fils adoptif, gentil mais profondément débile, et entouré de ses fidèles à peine plus jeunes que lui. Conan se trouve, comme tous les ans, aux confins de son royaume, dans un château un peu pourrave pour la grande réunion diplomatique des 7 royaumes. Bien entendu, les rois, barons et autres têtes de compte, soutenus par une religion naissante, se sont bien rendus compte que le lion perd sa crinière et qu'il serait peut-être temps de reprendre guerre, pillage et autres libérales joyeusetés. Pour ce faire, entamer une coalition afin de recruter le bad boy au doux nom de Tranche-Gueule, le bien nommé, et sa bande d'écorcheurs qui auront pour mission de s'amuser dans le château et ramener la tête de Conan au conspirateur bien-né. Conan parvient à s'enfuir, mais le Tranche-Gueule et 12 de ses compétences barbares partent à sa poursuite dans les confins de la Cimérie. Histoire de corser le parcours, il semblerait que quelque chose traque les traqueurs. Ils arrivent enfin à choper mon barbare préféré, non sans mal, grâce au fils adoptif qui, je le rappelle, n'est pas complètement rempli. Tout va bien pour ce qu'il reste de la joyeuse équipe de mercenaires quand soudain. Oui, je sais, ça semble court, mais c'est sans compter les talents de Laurent Montès, et il y en a une patouille. L'écriture, déjà, elle est précise, châtiée par moments, totalement déjantée à d'autres, par exemple quand les mercenaires s'expriment. Le vocabulaire est d'une richesse exceptionnelle, tant au niveau architectural que pour les armes ou les vêtements. Les descriptions sont extrêmement réalistes, frisantes, se plongeant dans le trash de manière tout à fait logique. Les personnages sont superbes, les nobles puent la trouille et la perfidie quand les mercenaires font simplement le taf, violents, tuant, torturant, avec une joie sans partage, et leur chef, Tranche-Gueule, malgré les horreurs auxquelles il se livre, exhume une certaine noblesse. Les 12 bires qui vont poursuivre Conan resteront gravées dans ma mémoire. Et Conan, je vous l'assure, c'est bien lui. Diminué par l'âge et son infection, mais c'est lui, l'homme fier et pragmatif, rusé et humain. Les fans du héros ne devraient en aucun cas rater cet opus. La comparaison de Montez à Cormac McCarthy évoquée sur le 4e de couverture est effective. Je ne peux qu'espérer que Laurent Montez s'amuse encore avec ce héros, mais il semblerait, au vu des retours, que cela soit compliqué.
C'est Forlorn Kingdom qui nous sert un peu de bed. Le morceau Thrones of Forgotten Heroes, les trônes des héros oubliés. Alors Conan, ça c'est un héros qui n'est pas oublié aujourd'hui. Hein.
Oui,
j'ai encore un truc à rajouter.
Ouais, rapide. Il y avait donc dans toutes ces nouvelles, il y a les guerriers de Valhalla. Ouais. Et là, il est question dans le, je cite, « Que me reste-t-il à faire, sinon rester assis, à attendre la mort, qui progresse insidieusement en moi, sous la forme d'une maladie incurable ?» Alors, c'est pas Conan, je sais plus qui c'est.
Donc, ça pourrait être Conan dans le bouquin dont on vient de parler, là, avec Jean-Luc.
Et donc là, ouais, exact. Et donc là, je me suis dit qu'il faisait référence à la maladie de sa mère. Il y avait une tuberculose, parce qu'en fait, il est question d'un dédoublement du « je » dans la nouvelle. Ouais, c'est ça. Il parle jeu, et donc c'est l'auteur, c'est lui, Howard. Et après, donc on comprend ça qui vient. Et après, ça devient un barbare. Et le barbare, peut-être pour vaincre la mort. Pour lui, parce que sa mère, il avait une relation très. Ils étaient très liés.
Ouais,
et
ouais, ouais.
C'est quand sa mère est morte de tuberculose, apparemment, qu'il s'est suicidé.
Ouais.
Donc
ouais,
hypersensible, et puis paf. Et donc je me suis dit, ouais, il y a quelque chose, quoi. Et surtout. Ouais. Je sais pas à quel moment, si Guerrier de Valhalla, je sais pas quand. Je vais regarder C'est écrit à la fin quand est-ce qu'il a écrit, mais...
Sébastien est en train de feuilleter le beau livre donc sur la conne-exploitation de Claude Gaillard. Je pense que finalement, on reparlera dans notre prochaine émission. Ouais. Oui, on va pas avoir le temps de parler un peu de tous les sous-connans qu'on s'est enfilés récemment, dont certains sont très bien et ont des BO aussi qui sont très cool. On s'écoutera dans notre prochaine émission.
Notamment celle d'Arles Invincible, le
premier. Et puis Deathstalker, finalement, là, je sais pas, c'est... ça va être... On en parlera dans la prochaine émission aussi. Bon, de toute façon, le film n'est pas sorti. On l'a vu par des moyens libertaires.
Ouais.
Il est visible sur Amazon Prime, mais pas dans nos régions. Donc,
D'accord.
Il est passé quand même au Festival du film fantastique de Strasbourg l'automne dernier.
Il y a 10 ans.
non, à l'automne dernier, c'est un film de 2005.
Toujours pas dispo. Ok, ben merci pour tout.
Eh ben, on va quand même annoncer nos événements.
Ah ben Chrome.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ah
bah, oui, Chrome de Chrome.
Tu veux qu'on finisse par Chrome.
J'essaie de mettre cette Chrome par l'injure de Conan, par bon Dieu, quoi.
Chrome qui ne l'aide jamais. Chrome ne l'aide pas beaucoup.
Ah ben bah non, pas beaucoup. Ouais. Des fois, ouais, je sais pas.
On a deux animations de prévues. C'est les nuits de la lecture qui arrivent.
Du 21 au 24 janvier. Hein.
Ouais, à Angers le week-end prochain. Et nous, imaginaire, ce sera pas la nuit, notre animation. Ce sera le matin, donc samedi prochain, de 10h à 12h. On a appelé ça Énigme à Angers. Si vous voulez tester vos connaissances sur la ville, découvrir quelques anecdotes, curiosités ou mystères angevins, vous challengez sur votre culture et assurez vos 10 000 pas par jour. Donc, c'est une activité culturelle, mais aussi un peu sportive. Ce jeu d'énigmes imaginé par l'association Imaginaire. Et pour vous, ce sera départ de la bibliothèque Saint-Éloi. J'espère qu'il va faire beau. J'espère qu'il va pas flotter. À partir de 12 ans. Et puis, vendredi 30 janvier, on refait une nuit du jeu de rôle à la bibliothèque de Belbeil. Des parties de 17h30 à 19h pour les enfants. Moi, je ferais Péri les princesses, par exemple. Et puis, à partir de 19h, il y a des parties qui commencent à 19h et à 20h. Et donc, on pourra jouer notamment à Mothership avec Charles, de l'assaut imaginaire. Et puis, sinon, il y a les Gong Farmers de l'Anjou qui viennent proposer du DCC aussi. On pourra aussi jouer à l'Appel de Cthulhu, Delta Green, et puis plein d'autres jeux. Donc là, par contre, faut téléphoner à la bibliothèque de Belbeil.
Bien, ok.
Voilà. Bon, et ben, on va se dire à dans 2 semaines. Donc, on reparlera, nous, quand même, de l'univers de Robert Howard. On n'a pas parlé des filles, on n'a pas parlé de Red Sonja, Agnès Lanoir, etc. Et puis, on parlera aussi un peu de nos sous-Conan favoris. Et donc, on se quitte avec encore un morceau d'Antépop. Un blues psychédélique encore. L'Odyssée transfigurée de Chrome. Salut!
funny day.